Et du coup, t'as un petit surnom ici ? On t'appelle pas le druide ?
Ah, c'est le druide.
Ouais. Ah, c'est le druide.
Déjà, à l'époque, on m'appelait le druide. Et parce que déjà, j'étais chaudronnier. Donc, c'était Panoramix. Et du coup, de Panoramix, c'était soit Pano pour Panoramix, soit le druide. Mm. Et vu que j'aimais bien confectionner déjà des produits à base de plantes, quoi. Mm. Et aujourd'hui, en tant que distillateur, tous mes potes de Rennes maintenant, qui ne connaissaient pas mon surnom de l'époque, ils m'appellent aussi le druide. Et donc, j'ai des entreprises qui viennent aussi des fois pour me dire on aimerait bien élaborer un produit et en fait, on cherche un druide. Et du coup, à chaque fois, ça me fait rire, quoi.
Ok, pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre ?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est faire du cidre à l'apéro !
Quand vous avez bu 2-3 coups de cidre et puis une autre bouteille de poêlée après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.
Ton distillateur, ça va faire bientôt 10 ans, et à la Wexière, ça va faire 5 ans. Ouais. C'est bien, même bientôt 6 ans. Ouais.
Et du coup, t'es originaire d'ici, la Wexière, ou t'es originaire?
Non, je suis d'Orléans, mais personne n'est parfait. Du coup, j'ai migré ici il y a une quinzaine d'années. Je me sentais plus chez moi en fait. J'ai fait Orléans, Blois, et donc Blois pour les études en métallerie et ferronnerie. Et du coup, je me sentais plus chez moi en fait là-bas. Et il n'y avait pas vraiment de bonnes entreprises dans la ferronnerie d'art, sculpteur sur fer, etc. Moi, je voulais être sculpteur en fait, quoi. Et du coup, je me suis dit allez, j'aurai plus de chance en Bretagne. Donc j'ai pris mon sac à dos à l'aveugle. Et quand je suis arrivé ici, inscription Pôle emploi oblige. Et du coup, Pôle emploi, en fait, pendant le rendez-vous, ils me font du coup, vous cherchez dans quoi ? J'ai dit un petit ferronnier d'art. C'est juste en mode, vas-y, c'est le truc obligatoire, mais tu trouveras pas en fait, quoi. Parce qu'à chaque fois, ils me proposaient des trucs de soudeur, des trucs qui avaient. Mais vraiment des choses qui avaient rien à voir, même dans ma formation, quoi. Ce soudeur, encore ça va, mais c'était des gros trucs de soudure, hors normes, quoi, avec des diplômes que j'avais même pas. Et du coup, là, Pôle emploi, ils me font détrompez-vous, on a ce qu'il vous faut, quoi. Et du coup, j'ai trouvé une boîte en ferronnerie et qui rénovait les monuments anciens, etc. Donc okay. Super cool, mais le problème, c'est que j'ai un problème de santé, un problème de genou. Deuxième fois que le ménisque est cassé, donc les chirurgiens ont dit, en fait, là, faut faire le deuil de votre métier. Du coup, grosse remise en question, qu'est-ce que je vais faire ? Donc ma deuxième passion, c'était quand même les plantes. Et du coup, je faisais pas mal de transformations à base de plantes, cosmétiques, liqueurs, des vins de plantes, toutes sortes de choses. Et du coup, j'ai posé un peu tout ça. Je suis parti dans le sud rejoindre ma tante qui travaille déjà dans les plantes, qui fait des formations, qui a écrit des bouquins sur les cueillettes sauvages, les confusions possibles. Édition Utovie, l'ortie aussi, une amie qui vous veut du bien. Il y a pas mal de choses. Et du coup, je devais rester 2 semaines, je suis resté 3 mois. Et du coup, de là, débouché un stage en savonnerie. Pareil, je devais rester 2 semaines, je suis resté 3 mois. Elle voulait même vraiment que je reste. Et moi, je me suis dit, en fait, non, j'ai vendu des savons. J'y voyais bien que j'étais pas crédible en vendeur de savons, mais que je serais plus crédible en vendeur d'alcool. Vu que j'ai vendu ces savons alors que je faisais moi-même, en fait, parce que du coup, elle me donnait les recettes, je les fabriquais et j'allais les vendre. Du coup, elle m'a mis vraiment dans une situation d'artisan. Du coup, elle m'a vraiment appris le métier d'artisan. Je vois beaucoup, en tout cas. Et du coup, quand je me suis vraiment réfléchi, je me suis dit non, j'ai pas envie de m'installer dans le sud, je veux retourner en Bretagne. Après 6 mois d'absence, du coup, je suis revenu ici et du coup, j'ai créé Awen Nature. Donc Awen Nature, c'est l'inspiration poétique. Donc l'inspiration et nature, donc l'inspiration de la nature. Donc Awen Nature, j'ai créé du coup, c'était surtout des spiritueux à base de plantes. Mais du coup, maintenant, je fais quand même un sirop et je fais aussi une préparation de plantes qui est une préparation de grog, pour grog. Okay. Il se mélange aussi avec de l'alcool et même le sirop se mélange à merveille avec de l'alcool puisqu'on peut le mettre dans le vin, vin mousseux, dans le cidre, dans la bière, dans le rhum, on peut faire des cocktails avec. Donc il y a vraiment un rapport de ce sirop avec l'alcool quand même.
Et là tu as combien de boissons différentes ?
J'en ai plus d'une vingtaine, un petit peu moins de 30, ouais.
Ok.
Ouais. Et je travaille aussi à façon, donc je fais aussi d'autres produits pour d'autres. Donc des liqueurs, des gins, des vodkas, pas mal de choses aussi que je fais. Par plaisir aussi, mais à côté, pour d'autres personnes.
Okay.
Donc des recettes que je ne veux pas forcément sortir, je ne peux pas non plus tout sortir. J'ai des idées dans tous les sens, avec d'autres plantes, etc. Et du coup, je suis obligé de faire une concession. Et du coup, quand on vient me voir et qu'on me dit, j'ai envie que tu m'élabores un gin, Du coup, bah, soit ils ont vraiment une idée en tête, soit bah, je discute avec eux. Et par rapport à leur, leur caractère, en fait, à eux, et ben, j'élabore quelque chose, quoi.
Ok. C'est sympa, ça. Personnaliser ouais. vraiment par rapport au profil de la
personne. Ouais, complètement. Ouais. Là, par exemple, il y a le, pour le groupe La Femme, j'ai rencontré le chanteur, moi, il y a quelques années de ça, dans une cave à absinthe. Et du coup, il m'a demandé de l'élaborer une absinthe. Et par rapport, en fait, à ses goûts, à lui, par rapport à, vraiment à tout ce qu'il dégage, du coup, bah, j'ai élaboré un produit. Donc, l'absinthe Ypsoline.
En parlant de l'absinthe, du coup, tu fonctionnes qu'avec des plantes qui viennent d'ici ou tu fonctionnes aussi avec un ensemble de plantes?
Un ensemble de plantes qui viennent de partout, parce que j'ai des plantes qui viennent de loin, malheureusement, mais la vanille, ça, c'est compliqué d'en faire en France, par exemple. La cannelle, la réglisse, des choses comme ça aussi, ouais. Quand je peux, c'est en local. Ici, je cultive un petit peu, mais c'est vraiment pour ma collection personnelle. Donc, j'ai 160 plantes, peut-être 180 au printemps prochain, parce que du coup, j'ai une bonne liste aussi qui va s'ajouter là au reste. Donc une petite collection que forcément, bah, quand je peux, j'utilise dans mes produits à Wen Nature. Et pour les 10 ans, donc l'année prochaine, du coup, je vais faire une vodka et, à base de plantes du jardin, un gin et une absinthe, à base vraiment de plantes du jardin botanique.
Ça sent l'absinthe.
Bah ça, c'est un verre à absinthe.
D'accord.
Ça, c'est un verre qui s'appelle Pontarlier. Du coup, dans une dose d'absinthe, sur un verre absinthe, une quantité d'absinthe, tu vas mettre une petite quantité, entre 3 et 6 centilitres.
D'accord.
Ou plus.
Okay.
Tout dépend de ce que tu veux faire. Tu mets une cuillère, si tu veux sucrer la préparation. Ensuite, tu mets un sucre blanc, idéalement. Et ensuite, tu fais couler de l'eau sur le sucre pour faire un sirop de sucre. En fait, le sucre, il se dissout dans l'eau, mais pas dans l'alcool fort. C'est l'ancêtre du pastis. Hein.
Ouais.
L'absinthe, ça n'a pas été fait pour être bu pur. Ça a toujours été fait pour être mélangé avec de l'eau. À la base, c'est un produit qui est apéritif, digestif. Et l'alcool fort va pas aider à digérer. Par contre, les plantes qui sont dedans, oui, les molécules sont digestives. Mais du coup, l'alcool fort, s'il brûle, bah, tu rajoutes de l'eau et il y a très peu d'alcool. Et du coup, bah, voilà. Ça, je rappelle, si un whisky brûle, la même quantité, ça pouvait, avec de l'eau, c'est équivalent d'une bière. Mais la bière, si on la distille, tu auras le whisky. Le schéma de la sécurité sociale, il est très bien pour expliquer aux gens. On a 10 grammes d'alcool pur dans chaque chose, donc dans une bière, dans du vin, cidre, poiré, etc. Dans une dose de bar, c'est 10 grammes d'alcool pur. Ça, à l'époque, quand ils disaient que l'absinthe rendait fou, c'est que le vin, le cidre, le poiré et la bière, c'était bon pour la santé. On ne pouvait pas devenir alcoolique avec tous ces ingrédients-là. Par contre, l'alcool fort, oui, on pouvait devenir alcoolique. Et avec l'absinthe, il y avait pire que l'alcoolisme, c'est l'absinthéisme. Alors, qu'est-ce qui provoquait... c'était quoi les symptômes? Donc, on disait que ça rendait fou. Oui, mais quoi? On disait que ça provoquait des hallucinations visuelles et auditives. Bah ouais, le délirium tremens, quand on est alcoolique, quand on est en sevrage ou en manque d'alcool, on a donc des hallucinations visuelles et auditives. Effectivement. On disait que ça rendait criminel. En quoi l'alcool ou une molécule peut rendre criminel? Bon, par contre, il y avait beaucoup de criminalité à l'époque. Et aussi, il y avait beaucoup d'alcooliques du fait qu'il n'y avait pas d'eau courante. Depuis déjà la Renaissance. Donc du coup, bah, le fait de donner du vin aux enfants, ça a permis de diminuer de 70% la perte infantile. Mais ça a augmenté tout autant bah, le taux d'alcoolisme chez l'adolescent. Donc effectivement, les alcooliques, il y en avait plein. Sauf que vu que le vin, il sauvait des vies, on pouvait pas dire qu'il était mauvais pour la santé. Faut pas oublier qu'on a interdit le vin dans les écoles primaires dans les années 50, 55. Dans les années 70, les cyclistes autour de France, ils fumaient des clopes pour élargir leurs poumons. Enfin, on a des choses qui sont aberrantes aujourd'hui. On se dit, mais c'est complètement con. Mais ouais, mais c'était l'époque. Ouais, et ouais. Là, on parle d'une époque, on était à... L'interdiction, c'est 1915. En tout cas, en 1860, c'est là qu'on a commencé à dire que ça rendait fou et criminel. Donc la science n'était pas autant évoluée. Donc si on l'a réautorisé, c'est pas parce qu'on a changé la recette, c'est pas parce qu'on a enlevé une molécule, c'est juste parce que ça a été interdit pour de mauvaises raisons. C'est pour ça qu'on l'a réautorisé. On a voulu interdire aussi le gin en Angleterre, parce qu'en Angleterre, on disait que le gin, il rendait fou et criminel. Il y a des gens qui vendaient leurs enfants aux usines pour se payer des bouteilles de gin. C'était très dramatique. Il y avait beaucoup de contrebande, donc beaucoup d'alcool frelaté, donc beaucoup de gin frelaté. Mmh. Nous, on avait aussi tout autant avec l'absinthe. Donc, on disait que l'absinthe faisait des ravages et provoquait des problèmes de vue, etc. Faut pas oublier que des distilleries comme Pernod existent toujours. Et c'est eux, ils faisaient des bons produits. Des produits qui n'étaient pas nocifs à boire en une seule quantité. Mais par contre, l'abus d'alcool, oui. Mais là, quand on est sur un alcool frelaté, il n'y a pas besoin d'en boire des caisses pour perdre la vue. Donc, c'est pas bon à boire, hein, clairement.
Non, c'est ça.
Donc, des gens qui sont devenus aveugles ou tétraplégiques, il y en a eu pas mal aussi pendant la prohibition aux États-Unis. Bah, il n'y a jamais autant de gens qui ont bu de l'alcool pendant l'interdiction de l'alcool.
Ouais.
Voilà. En Russie, c'était pareil.
Bah oui.
Voilà, quand ils ont interdit, au Canada, il y a eu la prohibition.
on en parle beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas eu Al Capone, etc. Donc on parle surtout de celle aux États-Unis, qui a fait beaucoup plus de bruit, mais tout ça, c'était des contrebandiers qui faisaient des alcools surtout frelatés. Donc le gin, il y a eu aussi ça, sauf que du coup, bah, plutôt que d'interdire le gin, ils ont simplement interdit l'alcool frelaté. Donc ils ont posé des appellations, posé des choses, posé des règles, et interdire les distilleries clandestines. Mmh. Et là, ça, le gin a retrouvé ses lettres de noblesse. Mais l'absinthe, comme on l'a interdit tout simplement sans ménagement, du coup, ça a perdu aussi son sens et sa fabrication, sa dilution avec de l'eau, hein, parce que tout le monde pense que ça se buvait pur. Et on disait, oui, mais si Rimbaud, Verlaine, etc., ils sont devenus fous, c'était à cause du fait qu'ils buvaient pur. Bah, en fait, si tu prends un shooter, si tu veux, et que tu le mets dans de l'eau, que tu bois ton eau, c'est beaucoup plus agréable, tu vas pouvoir en reboire. La consommation était de 12 verres d'alcool par jour. On ne voit pas quelqu'un prendre 12 shooters par jour, c'est pas possible. Donc là, je vous ai fait un équivalent bien dilué. Mmh. Et idéalement, il ne faut pas que ça picote. C'est-à-dire que même si tu mets de l'eau dedans et que ça picote, tu n'auras pas tout l'arôme. Mmh. L'alcool, il va vraiment divulguer tout son parfum quand tu auras suffisamment d'eau. Après, ça dépend ce que tu bois. Un gin, ça ne fait pas ça. Un gin, tu mets la quantité d'eau que tu mets dans une absinthe, tu n'as plus rien. Mmh. Mais l'absinthe, c'est vraiment les quantités de plantes sont faites pour boire avec de l'eau. Mais il y a toute une collection d'accessoires. Et c'est ça qui plaisait aussi beaucoup. C'est que du coup, il y a vraiment tout un cérémonial, tout un rituel. Du coup, quand tu te posais pour prendre l'absinthe, il y avait vraiment comme un thé, quoi. Les gens se posaient. Et la fontaine, la boîte à sucre avec la boîte à cuillère, que tu prenais ta petite cuillère, bam.
Là, surtout ce qui est produit de la mer, tu t'éclates, côté iodé.
Dans les gambasses, à la poêle, ah, comme ouais. Ça, c'est super bon. Ouais. Ouais. Bah, c'était un restaurateur qui avait fait ça pour Mitterrand, je crois. Et ça avait, vu que l'absinthe était encore interdite, du coup ça avait créé une polémique.
Ah ouais,
Et c'est là que ça a remis justement au bout du jour le problème de l'absinthe. Mm. Ouais, mais il avait fait des gambasses à l'absinthe.
Ça sent divinement bon là. Là ça distille quand même pas mal.
Ouais, parce que... là c'est le pastis qui est distillé.
C'est vrai, c'est ça, ok.
Ouais. Donc sur quand aussi fort comme ça, ça sent bon, mais on a du mal même à distinguer le produit. Hein. Quand c'est tellement fort comme ça, sur mes absinthes, par exemple sur mes 5 absinthes, on ne saura pas vraiment qui est en train de distiller. Quand le cœur de distillation il est un peu reposé à l'odeur, on peut distinguer un petit peu. Mais surtout quand on va mettre de l'eau et qu'on va le maintenir là en bouteille à 60% de volume. Au nez, là déjà, moi je la reconnais les miennes. Mais là, brut comme ça, c'est vraiment très très fort, on a du mal. Par contre, on peut goûter si vous voulez. Il y a juste besoin de mettre le petit doigt comme ça, de le tremper et de goûter son doigt. Et tout au fur et à mesure de la distillation, si on goûte, on va sentir des choses différentes. Là, il y a 13 plantes dans le pastis. Sur la fin, on sentira plus les racines, donc la cannelle. Là, au début, là, on a un côté un peu anisé, mais qui est assez trouble, en fait, quoi. On n'a pas vraiment le goût du pastis, quoi. Moi, sur le gin mist, par exemple, franchement, je coupe à 55, aux alentours de 55-50, mais même des fois à 40, ça sent encore magnifiquement bon, quoi. Voilà. Mais tout dépend aussi de la saison, des plantes qui sont chargées dedans. Parce que du coup l'eau est un peu notre ennemi là. Pour ces produits-là, du coup on veut qu'il y ait moins d'humidité, c'est pour ça que c'est avec des plantes sèches, tout le temps avec des plantes séchées. Certains distillent avec des plantes fraîches, mais c'est plus par rapport à ce qu'on veut y ressortir. Et après tout dépend de la quantité chargée. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on n'aura jamais la même chose. Si par exemple je vais cueillir des plantes dans mon jardin le lundi, j'ai charge dans mon alambic, j'ai pris 1 kg de chaque, et j'aurai pas le même goût que le mercredi si le mardi il a plu. Parce que du coup, elle est gorgée d'eau, quoi.
Ouais, c'est sûr. Du coup, toutes les plantes sont infusées à chaud, à froid, ça dépend, j'imagine.
C'est une macération à froid entre 24 et 48 heures. Donc je macère directement dans les alambics, ou si je suis pressé et que je distille quasiment tous les jours, comme en ce moment, je macère à côté, dans des cuves à côté.
Okay.
Et après, je vide mon alambic, je le remplis dans la même journée, je distille, et là c'est parti pour 7-8 heures de distillation.
Et tu fonctionnes avec un seul type d'alambic
du coup, moi c'est des bains-marie, et du coup j'ai un 150 et un 200 litres, et qui vont être remplacés par un 500 litres. Le 500 litres qui est là-bas, qui est tout neuf. Il va remplacer surtout le 150, et le 200 sera à côté pour compléter un peu pour une cuve, par exemple, d'embouteillage 2000 litres, ou pour une commande, du coup, si j'ai besoin de deux gros et un petit, parce que du coup, l'autre sera, si je refais un troisième gros, ça risque d'être un peu trop, par exemple, et il faut le charger quand même à plus de la moitié.
pour faire un bon rendement. Donc du coup, le petit de 200 litres me servira à ça.
Ok. Ouais. Donc c'est pas toi qui les as fait, ceux-là ?
Non. Par contre, je les ai customisés. Le nouveau, en fait. Bah, à chaque fois, j'achète un alambic, il y a toujours des choses à refaire. Comme par exemple, pas de sortie. Donc du coup, j'ajoute une sortie. S'ils en mettent une, ben, elle me convient pas. Là, par exemple, elle est trop conique, ce qui fait que mes plantes, elles restent bloquées. Elle est trop loin de la source de chaleur, ce qui fait que tout ça, c'est un peu de la perte. Donc maintenant, je les achète tout nus et puis je les customise. Donc là, je fais du tuning d'alambic. D'ailleurs, que j'ai mis des petites vitres dedans pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je suis très curieux et dans ceux-là, il n'y a pas de petites vitres. J'ai pas eu, jamais eu le temps de les mettre. Et donc, du coup, bah, j'aimerais savoir des fois ce qui se passe dedans. Ouais. Et ça permet aussi, quand il y a une problématique, de comprendre pourquoi. Si jamais, par exemple, il y a eu trop de mousse qui a enveloppé, qui a fait pousser des plantes sur le col de cygne, et derrière, on voit que ça a du mal à sortir, ben, c'est peut-être qu'il y a un bouchon de plante. Et moi, s'il y a une vitre et qu'il y a de la plante dessus, ben, on sait que du coup, la mousse a tout levé, quoi. Ça, c'était la problématique avec le houblon. Quand je travaillais avec du houblon en fleurs, maintenant, c'est en pelée. Donc, en pelée, j'ai plus ce problème-là.
Ouais. Et du coup, tu travailles un peu avec des fruits aussi ? Ou que des plantes ?
Eh ben, un peu de fruits, ouais. Les fruits, c'est plus compliqué, mais ce ne sera pas à la fermentation. Mmh. Mais par contre, là, en macération et distillation. Notamment, j'ai commencé les fruits dans les rhums. Parce que du coup, moi, j'achète du rhum de Guadeloupe. Et du rhum blanc brut de distillation, donc qui est aux alentours de 75 et quelques. Mmh. Et je fais une macération et une distillation de mon rhum. Donc, je vais faire un rhum arrangé, mais distillé. Donc, du coup, là, le fait de distiller, ça permet d'enlever tout l'arôme qui est dans le fruit et de tirer l'alcool qui est dans le fruit. Donc, c'est le principe de distillation. Si on distille, depuis le 13e siècle en France, c'est vraiment pour enlever toutes les molécules des plantes. À la base, c'était pour des médicaments. Du 13e jusqu'au 18e siècle environ, c'était surtout à but médicinal. Et ensuite, c'est devenu à but plutôt récréatif, on va dire.
Ouais.
Gustatif. Mais chartreuse, à la base, c'est un médicament. Mmh. L'absinthe, à la base, c'est un médicament que beaucoup de gens utilisaient plus pour boire pour le goût plutôt que pour soigner. C'est pour ça que Pernod, du coup, a commercialisé cette recette-là avec son beau-père. Et donc, du coup, bah, les fruits, moi, ça m'est venu surtout là à travailler comme ça. Et après, du coup, vu que je suis un fan de poire et que je suis allergique à la peau de la poire, mais une fois que c'est chauffé, donc en compote ou quoi que ce soit, c'est bon. Ça, là, il n'y a plus de problème. Du coup, bah, je me suis dit, moi, je suis tellement un accro de la poire et je peux tellement plus en manger. Il y a tellement une grosse frustration. Je me suis dit, bah, déjà, je vais en travailler dans les rhums. Donc déjà, j'ai fait deux rhums à la poire. Donc red rhum, il va y avoir du coup poire, concombre, poivron, boîte santal et piment oiseau. Donc j'ai voulu recréer le goût du piment. Du coup, et la poire, elle vient adoucir au niveau du goût. Parce que le poivron seul, ça fait pas du tout un piment. Mais le poivron avec le concombre et la poire, là, on a vraiment un goût de piment. Surtout avec le bois de santal qui va donner ce petit côté un peu fumé.
Okay.
Et j'ai fait poire, pain et romarin, qui est ma confiture préférée. Donc, poire, pain et romarin, super bon. Et là, donc, je viens de sortir une liqueur de poire. Et après, je vais commercialiser aussi un autre rhum à la poire. Ce sera poire et cacao. Là, la belle Hélène.
Forcément, ouais. L'Hélène liquide,
Donc ça, c'est Esprit Voyageur. Donc ça va être café colombien torréfié à la Boixière avec des bourgeons de fleurs d'oranger et du sarrasin torréfié en Centre-Bretagne. Donc là il y a une macération, donc je mets le tout en poudre, je macère dans le rhum et ensuite je distille le tout. Et après la distillation, j'ajoute un léger sirop de sucre et une légère coloration. Parce que tout ce qui est distillé est transparent, mais des rhums arrangés transparents, ça fait bizarre. Non, moi j'adore les colorations naturelles, donc du coup il y a des racines, des feuilles, des fleurs... Il y a un peu toutes sortes d'écorces, il y a un peu toutes sortes de choses qui vont colorer. Donc du coup, je me fais plaisir.
T'as un côté très rond au début, c'est hyper, hyper facile, quoi.
Ouais, c'est une de mes meilleures ventes aussi, avec le banane, gingembre, curcuma, galanga, poivre et vanille. C'est barbe aussi.
Oh, puis ça reste tellement... Et après, tu retrouves le blé noir sur la fin, là.
Mais c'est pour ça que je l'appelais Esprit Voyageur. Parce que du coup, en fait, ça migre. T'as la fleur d'oranger, t'as le café, t'as le sarrasin. Il n'y a pas vraiment une fusion, un mélange des plantes.
C'est quoi sa petite particularité à ta vodka ?
Et ben, en fait, l'herbe de bison, c'est une vieille recette polonaise. Et moi, du coup, c'est de l'herbe de bison que je cultive ici dans le jardin botanique. Okay. Là-bas, je me servais comme paillage. J'ai acheté pas mal de références à quelqu'un qui cultive des plantes un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et du coup, j'avais acheté l'herbe de bison. Je me dis, oh, ben, un jour, je m'en ferai une vodka pour moi, pour rigoler. Et en fait, c'était tellement bon en fait, que je me suis dit, bah, allez hop, je vais le commercialiser, quoi. Et en fait, ça faisait 3 ans que j'étais ici à la Boixière. Et du coup, je me suis dit, bah, là maintenant, je peux exploiter vraiment mes plantes. Il faut 3 ans de reconversion sur un terrain pour être en biologique. Et du coup, bah là, je venais de faire les 3 ans de reconversion, donc je pouvais être en biologique. Et du coup, c'était pendant le premier confinement. Et du coup, je me suis dit, bah, comme beaucoup qui avaient la chance d'avoir un jardin, j'ai fait du jardinage. Et du coup, là, je me suis dit, bah tiens, l'herbe de bison, ça sent bon, je vais en faire quelque chose, quoi. Et là, du coup, j'ai fait une bouteille à la base, et donc vraiment extravagante. Enfin, je suis vraiment extravagante, et du coup, j'ai commercialisé derrière, quoi.
Ouais. Ça, donc,
après, faut pas avoir peur de ce qu'on a déjà goûté qu'on aime pas. C'est franchement, c'est moi ce que j'expliquais quand quelqu'un il me dit ouais j'aime pas l'alcool, je dis bah, vous aimez pas l'alcool pourquoi? Parce que c'est fort, parce que vous aimez pas le goût, parce que si vous aimez les plantes, si je fais une liqueur de poire par exemple ou de sureau, bah si vous aimez le sureau, y a pas de goût d'alcool en fait. L'alcool il est neutre à la base. Donc du coup c'est les plantes qui vont donner le goût. Si on fait un whisky ou un rhum, on aura le goût là vraiment de la préparation de base, parce que du coup c'est pas ramené à 96% de volume. Donc du coup, on a un goût. Donc si on n'aime pas le goût du rhum, que je peux comprendre, ok. Par contre, si on a déjà goûté un très bon rhum et qu'on n'aime pas, on pourra dire qu'on n'aime pas le rhum. Mais si on a goûté que des choses de grande surface et qu'on dit j'aime pas la vodka, j'aime pas le rhum, j'aime pas l'absinthe, parce que l'absinthe, j'en ai goûté en Espagne, en République tchèque ou chez Lidl, et en fait j'aime pas ça, je dis bah ça tombe bien, c'est moi non plus. Et c'est pour ça que je suis distillateur d'absinthe aussi. Parce qu'à la base, moi j'aimais bien les bons alcools. Mais tout ce que je trouvais quand j'étais étudiant dans le commerce, que je pouvais me payer, n'était pas terrible. C'est là que je me suis poussé en fait, à faire mes propres alcools, à faire justement bah, des liqueurs. Donc j'achetais de l'alcool de fruits pour spiritueux, l'alcool blanc, neutre, et je faisais mes liqueurs avec. Je prenais des vins pas forcément très bons, et je mettais des plantes dedans, pour faire des hippocrates, etc. Et du coup, bah, quand je faisais goûter aux gens, les gens ils disaient « mais c'est génial, c'est super bon quoi ». Et je dis « bah ouais, après c'est vrai que ma liqueur de café était meilleure que celle qu'on peut trouver dans le commerce ». Et ça, la liqueur de café, c'était quelque chose de vraiment de ouf. Ouais. Et ben, l'alcool blanc, en fait, toutes les distilleries comme moi, en fait, on achète l'alcool blanc. Parce que c'est de l'alcool à 96% de volume. Il faut des alambics qui font à peu près 10 fois la taille de mon bâtiment. Et eux, ceux qui font ça, ils font que ça. Et donc, du coup, on tire vraiment un alcool neutre. Et là, on va mettre nos plantes. Là, on va, et c'est même obligatoire pour le gin, le pastis, d'avoir un alcool à 96. Donc, moi, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais c'est pas possible. Avec mon équipement.
C'est ça.
Et la qualité de l'alcool blanc n'a pas d'impact.
Ouais, surtout dès que tu vas mettre des plantes dedans. Si tu veux le goûter en vodka, parce que la vodka, finalement, c'est la base de tout. Parce que la vodka, c'est obligatoirement l'alcool à 96% de volume. Donc après, déjà, il te faut une bonne base de ça, d'alcool à 96. Et après, bah, derrière, il y a la réduction en eau. Donc quand on va mettre de l'eau dans un produit, parce que on met toujours de l'eau dans un alcool. Par exemple, dans l'alambic, là, moi, je vais sortir tout au départ. Quand ça va couler aux alentours de 80% de volume, bah là on peut regarder là, par exemple, lui il commence déjà à couler, on est déjà à 85. Là on est aux alentours de 85-86. Donc après il va réduire, il va se maintenir aux alentours de 80-82 pendant plusieurs heures. Et au moment où il y aura moins d'alcool dans l'alambic et qu'il y aura plus d'eau, là, c'est plutôt de la vapeur d'eau qui va passer, et là il y aura un petit truc qui va se passer qui fait que du coup bah, il y aura l'alcoomètre va lui bah, il va se lever, et du coup bah, c'est parce qu'il y aura de moins en moins d'alcool. Et sur un alcool de plante aux alentours de 55% de volume, et ben quand on goûte on sent que ça, le goût il est passé, donc en fait c'est un goût un peu de gazon bouilli. Mais donc du coup là on va séparer, on va enlève le cœur de la distillation, c'est dans celui-ci qu'on va mettre de l'eau parce que sinon il sera à 80. C'est vrai que si on voit, quand on me dit oui mais l'absinthe c'est fort, c'est distillé plus fort que les autres, je dis bah non en fait tout est distillé pareil. L'absinthe, le pastis déjà, c'est la même chose. C'est juste que le pastis, il n'y a pas forcément de l'absinthe dedans. Et le pastis, il y a déjà du sucre. Mais sinon c'est les mêmes choses parce qu'en fait c'est même le bébé de l'absinthe. C'est-à-dire que l'absinthe quand elle était interdite, les distilleries d'absinthe ont créé un substitut, les anisés. D'autres anisés, et du coup et on a créé une appellation qui s'appelle pastis. Mais Pernod, le pastis, c'est l'absinthe. Bah, Pernod, précurseur de l'absinthe. Pernod, pendant plus de 100 ans, c'était de l'absinthe.
T'as été baladé du côté de Neuchâtel ou pas?
Oui, carrément. Ouais. Ouais, j'étais en pèlerinage là-bas. J'y étais il y a 2 ans. Ouais.
Et l'eau de vie de cidre, du coup?
Et l'eau de vie de cidre, bah, dès que j'ai un de mes alambics, là, dès qu'il pourra fonctionner, lui, je vais pouvoir faire du whisky avec. Et en fait, c'est un fenu. Donc du coup, le fenu, on peut distiller vraiment plus facilement des liquides faibles en alcool. Donc de la bière pour faire du whisky et notamment bah, pourquoi pas du cidre. Et en fait le bain-marie, ce qu'il y a c'est qu'on va avoir une perte d'énergie qui est là pour protéger les plantes. Donc là d'avoir une protection pour juste un liquide, bah en fait il y a une perte d'énergie. Donc moi il y a la partie déjà écologie qui m'empêche psychologiquement moi de perdre de l'énergie pour rien. Parce que là en fait vraiment si tu mettais de la bière dedans, tu pourrais distiller. Tu pourrais mais il y a une perte énorme d'énergie. En fait, bah, tu vas chauffer 100 litres de plus, inutilement. Donc du coup, ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc en termes d'énergie, bon, bah là, même avec l'augmentation, bah, je m'en sors pas trop mal non plus. Par rapport à des industries qui font que ça. Moi, il n'y a que vraiment, là, la petite distillation. Quand tu pars d'un whisky, là, il y a beaucoup plus de chauffe, si tu veux, que par rapport à l'alcool à 96, que tu as réduit. Et que donc là, pour un alcool à 96, on le réduit déjà une première fois pour faire une macération. Et on va le re-réduire avant la distillation. On va titrer entre 40 et 50% de volume, ce qui fait que quand on va distiller, on va enlever l'alcool. Parce que l'alambic, lui, il sert, comme je disais tout à l'heure, il sert à séparer les molécules d'alcool que d'eau et d'eau. Donc du coup, là, en fait, en enlevant l'alcool, bah, il faut qu'il reste quelque chose au fond, sinon les plantes, elles vont brûler. Même s'il y a un bain-marie, ça brûlerait. Donc du coup, bah, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que quand on a fini de distiller, bah, les plantes soient encore émergées dans de l'eau. Voilà. Du coup, là, il n'y a plus d'alcool, tout l'alcool, on l'a retiré. Et avec le bon parfum, quoi. Donc, ce qui va ressortir derrière, c'est un goût vraiment de gazon. Et bouilli, comme je disais tout à l'heure. Et par contre, ça, je le mets dans le compost. Donc je le mets... Tout ça dans un endroit, et tous les 6 mois, ben, j'enlève tout et je mets ça dans mes fleurs. Et ça fait le meilleur compost qui existe au monde, parce que ça chauffe, mais pas trop. C'est-à-dire que je peux même en servir comme paillage directement. Ça va chauffer, donc du coup, ça protège les plantes du gel. Ça sert vraiment de paillage aussi pour éviter d'autres plantes de pousser, les indésirables. Et les oiseaux adorent ça parce qu'ils n'arrêtent pas de fouiner là-dedans. Donc c'est vraiment un excellent compost, parce que du coup la terre en plus qui sort de là, elle est très vite transformée. Donc en 6 mois, même pas en 3 mois déjà, en dessous c'est du terreau. C'est, de toute façon dès que tu grattes, c'est couvert de vers de terre. C'est un paillage aussi pour surtout le gin. Gin Mist a un très bon paillage contre les limaces. Donc ça fait rêver mes voisins. Ah ouais, du coup ils viennent pour leurs pieds de tomates et leurs fraises et ça marche très très bien.
Ah là, le secret est là, quoi. Cannelle.
Ah, attendez, je vais vous mettre du tonic dedans.
Ok.
Donc il a 57% de volume. Vous pouvez le boire pur, mais ça a risqué et péril. Il est très bon parce qu'il est comme une sucrosité.
Et tu l'as fait exprès de le laisser à...
57, ouais. C'est une appellation qui s'appelle Navy.
D'accord.
Okay. C'était... La Navy, en fait, utilisait transportait du gin ou du rhum dans des fûts de chêne. Ouais. Et en fait, il fallait qu'il soit suffisamment fort pour traverser. Mmh. Et pour être sûr, si vous n'allez pas tout goûter, pour être sûr qu'il soit assez fort, et bah, du coup, il le mélangeait, l'alcool qui arrivait, avec de la poudre à canon. Si ça brûlait, c'est que du coup, c'était suffisamment fort.
D'accord.
S'il y avait aussi dans le fût de chêne qui se renversait sur de la poudre, la poudre à canon, ou si la poudre à canon était simplement mouillée par la pluie, par exemple, en pleine bataille navale, et ben, il pouvait mettre du gin, faire une pâte, foutre ça dans le canon et brûler et pouvoir tirer avec. Donc c'était un peu leur sauvegarde à eux.
Je vois que tu as quelques fûts aussi.
Oui, tout à fait. Donc pour les fûts, moi j'ai mis à vieillir déjà du rhum pour faire plus tard un rhum arrangé avec une base de rhum en fût de chêne. J'ai mis aussi Ganesh parce que Gin Ganesh est un gin qui est mis en fût de chêne, en fût d'Armagnac et en fût neuf. Du coup, moi j'avais déjà eu des fûts d'Armagnac d'une distillerie et qui me l'avait donné quelqu'un avec qui je travaille en fait. J'aurais d'abord des produits et du coup, je lui avais demandé s'il ne pouvait pas me filer des fûts d'Armagnac. Il m'en a donné 2. Je voulais les réserver surtout pour de l'absinthe, faire une absinthe en fût de chêne. Pour la petite histoire, un jour j'avais fait mon sirop la décoction pour faire mon sirop, c'est une décoction de plantes. Et j'allais l'acheter dans le compost et je fais, mais ça sent super bon, j'y jure qu'il y a quelque chose à faire. Du coup, j'ai mis de la baie de genévrier, de l'alcool, j'ai distillé et je fais, ah ouais, ça c'est génial, là je tiens quelque chose. Et donc, du coup, mais dans ce goût-là, il manquait un côté boisé. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, et si je le mettais en fût de chêne? Donc du coup, j'ai mis ça en fût neuf d'abord, pour voir. Et j'ai dit, bah ouais, ça c'est magnifique. Donc du coup, je vais le mettre en fût d'Armagnac. Là, il y aura encore plus de goût. Et voilà, donc j'ai redistillé cette base qui me servait pour le sirop, avec des plantes séchées. Et du coup, j'ai élaboré la bonne recette par rapport à ça. Et j'ai mis en fût d'Armagnac. Et en sortie de fût d'Armagnac, bah en fait, il manquait quelque chose. Et le test que j'avais était en fût neuf. J'ai mélangé les deux et je suis ah ouais, bah voilà. En fait, il faut que ça soit un blend.
Ouais.
T'as déjà fait des repas à Cormet et Spiritueux?
On avait fait à l'algorithme, on avait fait quelque chose là-dessus. Ouais.
Okay.
Et ils avaient fait plein de plats qui allaient avec des alcools. Donc, des alcools à moi, quoi. Et du coup, c'était ouf comme soirée.
Ouais.
Et entre chaque plat, bah, j'expliquais, alors maintenant on va goûter ce produit-là, et du coup, voilà l'histoire, hein. Et après elle, à l'arrivée, elle a dit, bah voilà, du coup avec cet alcool-là, on va goûter ce plat, et voilà l'histoire, voilà ce qu'il y avait dedans, etc. Et c'était plutôt ouf.
Ouais. Ouais, parce que c'est plutôt rare aussi de voir des accords mets et spiritueux, mais là, en goûtant celui-ci, ça me met l'eau à la bouche, quoi. J'ai envie de grignoter quelque chose.
Donc, je me suis dit, Red Rum, c'est celui qui est au piment, là, poire, concombre, poivron, boîte de santal et piment oiseau, en accompagnant avec des petits magrets de canard fumé, c'est top. Vraiment top. Et même un steak, ça me fait saliver. Même avec un burger, en fait, ou un bon steak du boucher d'à côté, là, c'est une tuerie. Hein.
Ouais.
Super bon, quoi.
T'as un cocktail qui t'a marqué particulièrement ?
Le Green Beast. Ouais, Green Beast, c'est un cocktail à l'absinthe. En fait, c'est un peu une soupe d'absinthe. Hein. En fait, c'est du concombre avec de l'eau gazeuse, du sucre, du jus de citron. Okay. Tout simple à faire. Et très très bon. Après, si on donnait un autre, le Hugo Spritz avec ma liqueur de sirop. Ça, c'est une tuerie. Ça va être le cocktail de Noël et du jour de l'an. Quand on dit qu'il faut un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, c'est pour réhydrater le cerveau, du fait que l'alcool, en soi, il n'y a pas de minéraux dedans. Ouais. Et si en plus on met de l'eau distillée, comme beaucoup de grosses distilleries qui font pour... Et ben en fait, là, le produit, il est 100% impropre à la consommation, finalement. Il n'y a pas de minéraux dedans. Donc si tu bois que ça, sans parler vraiment de l'alcool, hein, même si c'était que de l'eau distillée, et ben c'est pas bon, du coup, pour le cerveau. Donc du coup, il faut qu'il y ait des minéraux. Donc le fait de mettre une bonne eau dedans, déjà, limite fortement les crises de mal de tête quand tu as un petit peu trop bu.
D'accord.
Ouais.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est permis, pour l'apéro.
Que vous avez vu, bu, 2-3 coups de cid et puis un shot bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.